Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Moustaki, c'est mon frère.
Eh bien oui, cette fois, il l'avait bien reconnu, et à toute évidence. Ce teint de pastel, ses yeux de prunelle dilatés et sombres dans la nacre, c'étaient les mêmes. Et tandis qu'il marchait derrière elle, ses cheveux, qui apparaissaient dans la nuque, sous la capote noire et la voilette, étaient bien d'un or semblable, couleur d'ambre et de cocon, d'un jaune fluide et textuel. Le même désaccord entre les yeux nocturnes et le midi flambant de la chevelure. Est-ce que sa raison périclitait à présent? Ou bien sa rétine, à force de sauver la morte, identifiait les passants avec elle? Tandis qu'il cherchait son visage, voici que cette femme, brusquement surgie, le lui avait offert, trop conforme et trop jumeau. Trouble d'une telle apparition, miracle presque effrayant d'une ressemblance qui allait jusqu'à l'identité. Et tout, sa marche, sa taille, le rythme de son corps, l'expression de ses traits, le songe intérieur du regard, ce qui n'est plus seulement les lignes et la couleur, mais la spiritualité de l'être et le mouvement de l'âme, tout cela lui était rendu, réapparaissait, vivait. L'air d'un somnambule, Hugues la suivait toujours, machinalement maintenant, sans savoir pourquoi et sans plus réfléchir, à travers le dédale embrumé des rues de Bruges. Arrivé à un carrefour où plusieurs directions s'enchevêtrent, tout à coup, comme il marchait un peu derrière elle, il ne la vit plus. En allée, disparue dans on ne sait laquelle de ces ruelles tournantes. Il s'arrêta, regardant au loin, inventoriant le vide, des larmes nées au bord des yeux. Ah, comme elle ressemblait à la morte.
Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror. As created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. The specter from the past that drew her to the ancient headstone in the mission graveyard. The compulsion that drove her relentlessly to the point of no return. The story of a love so powerful it broke down all barriers between past and present, between life and death, between the golden girl in the dark tower and the tawdry redhead that he tried to remake in her image.
If I let you change me, will that do it? If I do what you tell me, will you love me?
Yes.
Sueur froide est l'un des films réputés les plus troublants d'Alfred Hitchcock. Parce que Kim Novak n'y portait pas de soutien-gorge? Peut-être. Mais surtout parce qu'Hitchcock a su diriger James Stewart comme personne. Jusque-là, James Stewart était auréolé de ses rôles d'américain idéal, bon et courageux, dans Monsieur Smith au Sénat ou dans La vie est belle. En 58, il accepte donc de se pervertir sous la direction d'Hitchcock pour tourner Sueur froide.
Look, this isn't my line.
Ce film révèle que derrière le prototype de l'américain moyen de l'époque, grand, blond, aux yeux bleus,
well...
se cachent en fait des névroses de voyeur. En plan rapproché, Stewart use de ce qui fit sa marque de fabrique. Une bouche légèrement entrouverte qui marque son incapacité à trouver les mots et à sortir de sa névrose amoureuse qui lui donne toujours l'air d'être en manque. Sueur froide est encore aujourd'hui un modèle de mise en scène du baiser. Le premier baiser, filmé en plan rapproché par Hitchcock, est une métaphore. Le déchaînement de la nature et la puissance des vagues disent l'intensité du désir masculin.
«
final, lui, est filmé comme un étouffement, en plan de plus en plus serré. Les éléments du décor qui entourent les deux héros disparaissent peu à peu. Ils finissent par être complètement abstraits. Hitchcock ne voulait pas qu'on sente le désir s'échapper.
C'est votre film préféré, Hitchcock ?
Oui, sans doute. Je pense à certains égards que c'est le plus important, peut-être, même si c'est toujours discutable, d'établir une hiérarchie entre des œuvres et surtout des chefs-d'œuvre d'Hitchcock. Mais je crois que celui-là a une importance particulière, oui. Parce que c'est peut-être le film où il réfléchit le plus sur ce qu'est la création. Je pense que c'est vraiment une méditation en images sur ce qu'est la création cinématographique, avec ses prétentions, avec aussi ses échecs. Donc la réflexivité que pratique Hitchcock dans ce film est aussi une mise en évidence, enfin, est une mise en évidence aussi bien de ses visées de réalisateur et de sa prétention à la maîtrise de l'image, mais aussi la révélation au fond à lui-même que cette image lui échappe également à un moment ou l'autre.
Donc le vertige n'est pas simplement celui du personnage principal joué par James Stewart dans ce film, c'est aussi celui d'Hitchcock face à la création.
Oui, je pense que tout à fait celui d'Hitchcock. Le vertige, au fond, c'est celui du créateur. Vous savez, dans les films d'Hitchcock, il y a toujours un moment que très apprécié pour des raisons anecdotiques. On aime bien attendre le moment où Hitchcock va apparaître, le caméo d'Hitchcock. Alors, son apparition dans Vertigo est très frappante. Il apparaît au moment où le personnage principal, Scotty, qui s'est mis en retraite de la police de San Francisco suite à l'accident dont vous avez parlé en commençant. Eh bien, Scotty va à la rencontre d'un de ses anciens amis, Gavin Elster. Il va le retrouver dans ses bureaux. Et au fond, cette rencontre-là, ce sera la rencontre entre deux créateurs. Gavin Elster, qui va manipuler de A à Z le personnage féminin, joué par Kim Novak, qui s'appelle Madeleine, mais qui, dont son vrai prénom est Judy, on le saura ensuite. Donc Gavin Elster qui manipule totalement ce personnage, et puis Scotty qui tentera de faire de même. Or c'est justement au moment où se rencontrent ces deux réalisateurs, au fond ces deux créateurs en tout cas, que Hitchcock apparaît. Ce dont il s'agit chez Hitchcock, s'il pratique au fond ce sadisme, ou s'il s'y laisse aller, c'est parce qu'il y a une volonté de maîtrise totale de l'image. Il y a chez Hitchcock, Bazin lui disait déjà, Deleuze aussi sa suite, il y a le souci de concevoir le cadre comme, au fond, comme une île. Bazin, Deleuze n'utilise pas le terme d'île, là c'est moi qui l'utilise, mais je pense qu'il est pertinent. C'est-à-dire une image qui, pour ainsi dire, se suffit à elle-même et qui est en même temps une totalité, donc qui est constituée de l'intérieur pour faire sens par elle-même. Et donc, cela suppose, évidemment, de la part du créateur, une maîtrise totale de l'image. L'image ne dépend de rien de ce qui est extérieur. L'image ne dépend pas, chez Hitchcock, en tout cas, elle ne dépend, par exemple, pas même du scénario ou pas même des dialogues. Il faut pas oublier que Hitchcock est un réalisateur qui s'est formé à l'époque du cinéma muet et qui en est resté profondément marqué, comme d'autres très grands réalisateurs de la même époque. Il faut penser aux États-Unis à John Ford par exemple, qui aussi a fait ses classes dans le cinéma muet. C'était pas vrai de tous. Certains s'étaient formés à d'autres arts. Hitchcock est vraiment formé à l'art cinématographique, à cinématographique muet. Et il n'y a rien qu'il ne détestera autant que le théâtre filmé, que les dialogues filmés qui seront le tout venant du cinéma à l'époque de du renversement à partir de 27, 28, 29, 30, le passage du cinéma muet au cinéma parlant. Ce qu'il détestait là, mais c'est qu'au fond, l'image était illustrative, essentiellement illustrative. Donc pour lui, l'obsession de Hitchcock, si vous voulez, c'est l'image pure, au fond. C'est l'image qui fait sens par elle-même.
But you said no more aches or pain.
No, it's a darn corset. It binds.
No three-way stretch? Very unchic.
Yeah, you know those police department doctors, no sense of style. Well, anyway, tomorrow'll be the day.
Why, what's tomorrow?
Demain, on enlève ce carcan. Et je vais pouvoir me gratter comme le coma des mortels et jeter cette maudite canne par la fenêtre. Et en avant, les cabrioles.
Qu'as-tu l'intention de faire, puisque tu as quitté la police?
Tu me désapprouves de l'avoir quitté?
Oh non, c'est toi que ça regarde. Mais je me souviens d'un jeune et brillant avocat qui ambitionnait d'être à la tête de la police.
J'ai dû y renoncer.
Pourquoi?
À cause de cette peur du vide que j'ai, cette acrophobie. Je me réveille la nuit, je vois ce malheureux tomber du toit pendant que j'essaie de l'atteindre.
Était-ce ta faute?
Non, bien entendu.
Johnny, les médecins t'ont expliqué que tu...
Je sais. J'ai de l'acrophobie, ce qui me donne des vertiges chaque fois que je sens le vide. Betty, est-il vrai qu'il est rare qu'on en guérisse?
Eh bien, j'en ai parlé à mon docteur. Il n'y aurait qu'un choc émotionnel capable de te guérir, d'après lui. Je ne pense pas que tu aies l'intention de replonger dans toi pour le vérifier.
J'espère guérir sans ça.
Et comment?
Eh bien, j'ai une théorie. Le tout est de m'habituer à l'altitude, seulement par degrés, un peu à la fois. Tu vas voir. Commençons avec ceci. Allons-y. Premier étage. Voilà.
Et maintenant, l'étage au-dessus.
Et voilà. Je regarde au-dessus de moi et je regarde en bas. Je regarde au-dessus de moi et je vais me payer une échelle de pompier en sortant de chez toi. Toujours plus haut. Là, excellent test. Je regarde au-dessus de moi, je regarde en bas. Je regarde au-dessus de moi et je regarde en...
Johnny.
En fait, il faut définir. On peut diviser le film de différentes manières. Soit en deux parties, c'est-à-dire jusque à la chute de la pseudo Madeleine, et puis la deuxième partie, ben, c'est toute la reconstitution de Madeleine à partir du personnage de Judy. Soit la diviser en trois parties. Et je crois qu'il est plus pertinent souvent de la diviser en trois parties. Il y a toute une première partie qui est le moment de la fascination, le moment où la fascination pour l'image, je dirais très directement pour l'image plastique au fond qu'incarne Kim Novak. Lorsque Scotty est attiré par Gavin Elster pour voir pour la première fois sa femme, il la rencontre, il la voit de loin dans un restaurant, et il y a un mouvement de caméra absolument génial. C'est qu'on a l'impression qu'on va avoir un raccord subjectif, donc on cadre Scotty, et puis on s'attend à avoir un plan de Madeleine, et c'est pas ça que Hitchcock filme. Ce que Hitchcock filme, c'est un travelling arrière avec la caméra qui panote en même temps. C'est un travelling par lequel la caméra ostensiblement s'éloigne du point de vue de Scotty et vient saisir de manière autonome, au fond, vient saisir le personnage de Madeleine. Comme une mise en garde, attention, Scotty risque d'être fasciné, et effectivement, il y a quelque chose de fascinant.
D'autant que le mouvement de visage de Kim Novak à ce moment-là est particulier. Elle regarde d'un côté, puis elle se retourne, on voit son autre profil. Elle a cette robe verte qui se détache sur un fond rouge, l'endroit où il est un fond rouge. Il y a vraiment, pour le coup, c'est plus qu'une mise en scène, c'est presque un spectacle de danse auquel on assiste.
Tout à fait. Donc, en fait, dans toute cette première partie, et à de nombreuses reprises, on a l'impression qu'on va voir Madeleine de face, et c'est jamais le cas. Ça s'efface littéralement et on ne la voit plus que de profil. Et il y a un plan de ce point de vue-là, toujours dans cette première partie, qui me semble très explicite. C'est au cours de la filature. Donc Scotty est fasciné. Et d'ailleurs, si vous regardez bien dans la filature, donc il la suit en voiture
pendant de longues minutes.
Et il ne cesse de descendre. C'est étonnant, San Francisco, ça monte aussi. En tout cas, si on prend dans l'autre sens. Et donc non, on ne fait que descendre. On est happé petit à petit avec Scotty. Et à un moment donné, elle rentre de manière tout à fait étonnante. Chez un fleuriste, j'ai une manière étonnante, parce qu'elle rentre par l'arrière. On ne comprend pas très bien pourquoi. La vraisemblance narrative est souvent pas l'enjeu de Hitchcock. Il préfère se préoccuper de forme. Scotty la suit et il va se trouver dans une situation où il entr'ouvre la porte qui donne dans le magasin même du fleuriste, et il voit Madeleine qui choisit un bouquet et elle s'approche de lui, et de nouveau, donc elle est encore floue, elle vient de l'arrière du champ, et au moment où elle est proche et l'image devient nette, elle se met de profil. Et puis Hitchcock fait un autre plan, le plan pris à partir de l'intérieur de chez le fleuriste. Et c'est un split screen absolument génial, donc une division de l'écran absolument géniale, puisqu'on va avoir dans le même plan Scotty qui regarde, on le voit son visage par l'encoignure de la porte, par la porte entrouverte, et sur la porte, il se fait qu'il y a un miroir qui permet de voir le profil de Madeleine. C'est-à-dire qu'on a en un plan ce qu'est, pour une part, c'est la première partie, l'expérience cinématographique. Un spectateur plongé dans l'obscurité et qui regarde complètement fasciné un personnage qui se donne purement et simplement comme image. Et si je dis qu'elle se donne purement et simplement comme image, c'est parce que, étant de profil, au fond, elle ne regarde jamais vers nous, on ne voit pas ce qu'elle regarde. C'est-à-dire que, dès lors, le personnage de Madeleine, au fond, n'est pas vraiment un sujet. Il est simplement exposé au regard de l'autre comme une pure image.
Thank you. old?
Oh, some 2,000 years or more.
The oldest living things?
Yes. You've never been here before?
No.
What are you thinking?
All the people who've been born and have died where the trees were not living?
Their true name is Sequoia sempervirens. Always green, ever living.
I don't like them.
Why?
Knowing I have to die.
Je suis née quelque part par ici. Et je suis morte là. Pour lui, ça n'a été qu'une ère. Pour moi, une vie.
Madeleine, où êtes-vous en ce moment?
Avec vous?
Où?
Les grands arbres.
Étiez-vous déjà venu?
Oui.
Quand? Madeleine, quand êtes-vous née?
Il y a longtemps.
Oui? Quand? Dites-le-moi. Madeleine, dites-le-moi.
Non.
Madeleine, dites-moi ce qu'il y a. Où allez-vous?
Non, non, je ne
Quelle
peux...
Quelle force vous entraîne? À l'heure de vous jeter dans la baie, vous ne saviez pas où vous étiez. Vous cherchiez, mais
je
vous l'ignoriez.
Je ne me suis pas jeté, je suis tombée. C'est vous
Pourquoi
qui m'avez dit.
Ça? Pourquoi? Dites-le-moi.
Je ne peux le dire.
Pourquoi vous êtes-vous jeté, madame? Quelle force intérieure non, vous y a soudain poussé? Laquelle?
Je
Laquelle?
Je vous en supplie, ne me questionnez pas. Oh, pardon, je vous en prie.
Ces dialogues, en même temps, vont ménager d'autant plus le mystère. Et c'est pour ça que cette deuxième partie, au fond, je dirais, elle est le second pan de l'œuvre cinématographique. La première partie travaille purement et simplement l'image comme spectacle, l'image cinématographique comme spectacle. La seconde partie, c'est l'image cinématographique comme narration. Parce que ce qui est en jeu à ce moment-là, c'est l'histoire de Madeleine. Ce que va essayer, c'est à ce moment-là que Scotty essaye vraiment de comprendre son histoire. Il est plus simplement dans la fascination, il l'est toujours, mais il n'est plus simplement dans la fascination. Il essaye de comprendre l'histoire. Et ce qui est fascinant, même dans ces moments-là, alors même qu'il peut avoir des dialogues, un dialogue assez banal au fond, c'est que cette histoire lui échappe et qu'elle devient aussi mystérieuse et vertigineuse que l'est l'image elle-même. Fasciné par l'image, happé par l'image, il l'est aussi par la narration. Et c'est pour ça qu'après cette fameuse séquence des séquoias géants, cette vision de la coupe du séquoia, Scotty dit à un moment donné à Madeleine, mais je veux comprendre, il me faudrait l'origine. L'origine, c'est-à-dire le cœur de la spirale, le fond. Eh bien, ça lui échappe, comme dans le vertige, l'équilibre nous échappe. Et donc le spectateur sait très bien que Judy n'est pas que la matière première pour reconstituer une Madeleine. Judy a été elle-même manipulée, a participé à une manipulation. Et donc la Madeleine que Scotty essaye de reconstruire n'était elle-même qu'une copie. C'est-à-dire qu'on est pris, le processus de création dans lequel s'engage Scotty, il croit lui que c'est la reconstitution d'un original, mais nous savons, nous, qu'il n'y a pas d'original, qu'il n'y a qu'une copie de copie. Madeleine était la copie de celle qui était déjà morte. Et donc, en fin de compte, ce qui manque toujours, c'est l'origine de l'image, tout simplement.
Here, Judy, drink this straight down. It's like medicine.
Why are you doing this? What good will it do?
I don't know. I don't know. No good, I guess. I don't know. Oh, Lucie, je suis sincère. Les premiers jours heureux que j'ai eus depuis un an, c'est à vous que je les dois.
Je sais, Scotty. Je sais pourquoi. C'est parce que je vous la rappelle. Moi, je vous suis indifférente.
Non. N'en croyez rien.
Il y a en vous, je ne sais quoi, qui...
Vous n'avez pas envie de moi.
Si, si.
Vous ne m'aimez qu'à travers l'autre, n'est-ce pas? Nos premières sorties, avez-vous oublié comme elles étaient amusantes? C'est cette histoire de robe qui a tout gâché. Eh bien, je les mettrai, ces robes qui vous plaisent tant, si vous consentez à m'aimer un peu.
Vos cheveux.
Oh non!
Je vous en prie. Pour vous, ça n'a pas d'importance.
Si je consens à faire ce que vous voulez, est-ce que vous m'aimerez?
Oui. Oui.
Alors je le ferai. Pour que vous m'aimiez.
Venez vous asseoir près du feu.
The sex psychological side is that you have a man creating a sex image,
créant une image de sexe,
that he can't go to bed with her
avec laquelle il ne peut pas coucher
until he's got her back,
jusqu'à ce qu'il l'a de retour,
or metaphorically,
ou métaphoriquement,
indulged in a form of necrophilia.
Une forme de nécrophilisme.
That's what it really was.
Voilà ce que c'était réellement.
Oui, oui. Ah oui, ça c'est très bien, je trouve très bien. Justement, les scènes que je préfère, c'est les scènes où il l'emmène pour acheter les chaussures, les robes. Et où il est un peu comme un maniaque, là.
Non,
pas ces chaussures-là.
Non, pas ces chaussures-là.
Ça, c'est beau.
Et la chose, vous voyez, que je ressentais moi le plus,
c'est
que lorsqu'elle est revenue,
having her hair made blonde,
après s'être fait teindre les cheveux
en
blond,
wasn't up,
et ce n'était pas relevé en chignon.
Ah oui, oui, oui.
This means,
ceci voulait dire,
she has stripped, but won't take her knickers off.
Qu'elle s'est mise à poil, mais elle veut pas enlever ses culottes.
Oui. You see, and when she says all right, and she goes into the bath.
Bon, ça va, et elle retourne à la salle de bain.
And he is waiting.
Il l'attend.
He's waiting for the woman to undress.
Il attend que la femme se déshabille.
And come out.
Et ressorte nue.
Ready for him.
Prête pour lui.
And while he was standing there,
et pendant qu'il se tenait là,
looking at that door,
regardant cette porte,
he was getting an erection.
Il avait
like
une érection,
that.
Comme ça.
We will now tell a story. Shut the machine.
Well, I should be back from your face and pinned at the neck. I told her that. I told you that.
We tried it. It just didn't seem to suit me.